Claude Lévi-Strauss ne parlait pas d'art premier ni primitif, mais il exprimait la différence entre la façon dont l'art se vit dans les sociétés sans écriture et les sociétés modernes, c'est-à-dire avec l'écriture. La grande distinction, c'est entre l'individuel et le collectif dans les conditions d'élaboration de l'œuvre d'art. Dans les sociétés sans écriture, l'art est un système de signes. Avec la modernité, l'art n'est plus langage, grand système de communication, il devient objet de jouissance pour une caste privilégiée, tandis que dans les sociétés dites primitives, l'art demeure système de communication à l'échelle du groupe.
La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Claude Lévi-Strauss, professeur au Collège de France, une émission de Georges Charbonnier. Aujourd'hui, l'objet capturé.
Claude Lévi-Strauss, avant de vous poser la question qui fera l'objet principal de cette émission, je voudrais vous demander d'achever la comparaison des sociétés primitives et de nos sociétés. La présence ou l'absence d'écriture constituant un critère très important, mais ainsi que vous le faisiez observer, insuffisant.
En effet, la présence ou l'absence d'écriture ne constitue pas un critère suffisant, j'ai essayé d'expliquer pourquoi, mais en tout cas est d'une importance très grande. Alors il y a d'abord ça. Et puis il y a aussi, et c'est une fonction du précédent, la distinction entre des peuples sans histoire et de peuples à histoire. Mais cette distinction n'a pas exactement le sens que nous lui donnons. Elle est dans une large mesure fonction de l'absence d'écriture. Nous appelons ces peuples des peuples sans histoire tout simplement parce que nous n'avons aucun moyen de la connaître. Mais il y a quelque chose de plus si la distinction que je vous proposais tout à l'heure est bonne. Et cette distinction devrait nous inciter à changer la conception même que nous nous faisons des rapports entre l'homme et l'histoire. Nous avons une tendance, très fausse, me semble-t-il, à considérer que les sociétés humaines sont dans l'histoire, un petit peu comme les objets sont dans l'espace. Elles sont dans l'histoire et à différents moments de l'histoire. Je crois que c'est pas ça du tout. L'histoire est dans les sociétés, où elle est dans certaines sociétés. C'est un mode d'existence de ces sociétés caractérisées par des écarts différentiels, par des écarts de température. C'est une manière dont elles s'appréhendent elles-mêmes dans leur devenir et non pas du tout une sorte de milieu indépendant dans lequel elles baigneraient toutes. L'histoire est dans notre société, elle n'est pas dans n'importe quelle société.
Et quelle différence ? J'en arrive à la question que je souhaitais vous poser. Quelle différence l'ethnologue est-il amené à constater entre l'art des sociétés dites primitives et l'art, non pas moderne, mais des temps modernes ?
Dans cette catégorie même des temps modernes, je pense qu'il y a d'abord lieu de faire une distinction. Enfin, un ethnologue se sentirait parfaitement à son aise et sur un terrain familier avec l'art grec antérieur au 5e siècle et même avec la peinture italienne quand on la limite ou quand on l'arrête à l'école de Sienne. Là où le terrain commence à céder sous nos pas, où l'impression d'étrangeté apparaît pour nous, ce serait donc seulement d'une part avec l'art grec du 5e siècle, de l'autre avec la peinture italienne à partir du Quattrocento. Et il me semble alors que c'est avec ces formes relativement modernes, chacune dans sa dimension historique, qu'il faut essayer de faire la comparaison. Cela dit, il me semble que la grande différence tient à deux ordres de faits. D'une part, ce qu'on pourrait appeler l'individualisation de la production artistique. Et de l'autre, le caractère de plus en plus figuratif ou représentatif de l'art des temps modernes tel que nous le connaissons. Et encore là, je voudrais apporter une précision. Quand je parle d'individualisation de la production artistique, je ne pense pas surtout à la personnalité de l'artiste comme individu, comme grand créateur. Parce que cette situation, on la rencontre en fait, bien que nous ayons été assez longs à nous en apercevoir, dans la plupart des sociétés que nous appelons primitives. Les travaux récents sur la sculpture africaine, par exemple, nous montrent bien que le sculpteur est un artiste, que cet artiste est connu quelquefois très loin à la ronde, et qu'on peut le plus souvent, que les indigènes peuvent reconnaître la patte, la marque de tel ou tel dans sa production. Il s'agirait donc plutôt d'une individualisation, non pas du créateur, mais de la clientèle. Ça n'est plus le groupe dans son ensemble, le groupe dans sa totalité, qui demande à l'artiste de lui fournir certains objets selon des canons prescrits, mais des amateurs, aussi absurdes que le terme puisse être si on veut l'appliquer à des sociétés extrêmement différentes de la nôtre, des amateurs ou des groupes d'amateurs.
L'art est réservé à des amateurs à notre époque pour plusieurs raisons. D'abord, il y a bien une coupure à l'intérieur du groupe. Une partie du groupe se désintéressant totalement de l'œuvre d'art, ou plus ou moins, ou n'en admettant que des formes dégradées. Mais il y a aussi une question économique qui se pose. L'œuvre d'art est, dans nos sociétés, une chose très chère, et qui par conséquent n'est pas accessible à tous. Est-ce que ce phénomène, on le constate parfois dans les sociétés primitives, ou ne le constate-t-on jamais? Est-ce que dans la société primitive, tout le monde peut avoir accès, peut posséder?
Ça dépend alors tout à fait des sociétés. Il y a certaines sociétés primitives, mais alors qui sont des sociétés où les mêmes phénomènes sociaux et économiques auxquels vous faisiez allusion il y a un instant se reproduisent, où les artistes produisent pour des gens ou pour des groupes qui sont des groupes riches et qui les payent extrêmement cher et qui peuvent même attacher des valeurs de prestige au fait d'avoir tel ou tel artiste dans leur production habituelle. Ça peut se produire, c'est tout de même relativement exceptionnel. Mais vous avez raison de soulever tout de suite ce problème de la hiérarchie sociale, parce que je crois que nous allons le retrouver ici, comme nous l'avions eu un autre jour retrouvé à propos de la notion même du progrès et de la nature, de l'histoire, de la dimension historique, dont nous avions dit que c'était une catégorie intérieure à certaines sociétés, un mode pour les sociétés hiérarchisées de s'appréhender elles-mêmes, et non pas une sorte de domaine à l'intérieur duquel flottent tous les groupements humains, quels qu'ils soient. Et je crois que nous allons retrouver ça. Mais je ne voudrais pas me jeter la tête baissée, si je puis dire, dans cette explication, parce qu'il me semble que si nous l'acceptions de but en blanc, elle serait moins convaincante que si nous y arrivions par quelques intermédiaires. Et alors je reprends ce que je disais il y a un instant, les deux caractères, individualisation de la production artistique envisagée plutôt sous l'angle du client que sous l'angle de l'artiste, et de l'autre, caractère de plus en plus figuratif ou représentatif. Alors me semble-t-il que dans les arts que nous appelons primitifs, il y a toujours, et en raison d'ailleurs de la technologie assez élémentaire des groupes en question, il y a toujours une disparité entre les moyens techniques dont l'artiste dispose et la résistance des matériaux qu'il a à vaincre, et qui l'empêche, si je puis dire, même s'il ne le voulait pas consciemment, et le plus souvent il le veut consciemment, mais qui l'empêcherait en tout état de cause de faire de l'œuvre d'art un fac-similé. Il ne peut pas reproduire intégralement son modèle et il se trouve en quelque sorte contraint de le signifier. Au lieu d'être donc représentatif, l'art apparaît tout d'abord comme un système de signes. Mais, si on y réfléchit, on voit bien que ces deux phénomènes, individualisation de la production artistique d'une part et perte ou affaiblissement de la fonction significative de l'œuvre d'art, sont fonctionnellement liés pour une raison très simple. C'est que, pour qu'il y ait langage, il faut qu'il y ait groupe, ça va de soi. Le langage
est un constitutif.
Oui, est un phénomène de groupe, il est constitutif du groupe et il n'existe que par le groupe. Et je dirais davantage, c'est que le langage ne se modifie pas, ne se bouleverse pas à volonté. Nous n'arriverions évidemment pas à nous comprendre si nous formions dans notre société une quantité de petites chapelles dont chacune aurait son langage particulier, ou si nous nous permettions d'introduire dans notre langage des bouleversements ou des révolutions constantes, comme celle d'ailleurs à quoi nous assistons dans le domaine artistique depuis un certain nombre d'années. Qui dit langage dit donc un grand phénomène intéressant l'ensemble d'une collectivité et surtout un phénomène d'une très relative, mais tout de même très grande stabilité. On peut donc dire, me semble-t-il, que les deux différences que nous avions retenues il y a un instant ne sont que les deux faces d'une même réalité. C'est dans la mesure où un élément d'individuation s'introduit dans la production artistique que, nécessairement et automatiquement, la fonction sémantique de l'œuvre d'art doit tendre à disparaître et elle disparaît au profit d'une approximation de plus en plus grande du modèle qu'on cherche à imiter et non plus seulement à signifier. Cela dit, et cela posé, je suis tout prêt à revenir aux considérations sociologiques que vous invoquiez il y a un instant. Nous venons d'introduire un rapport entre l'art et le langage ou les différents systèmes de signes. Or, nous nous étions déjà posé ce problème, nous nous l'étions posé à propos de l'écriture. Et quand nous nous étions demandé à quel grand phénomène social l'apparition de l'écriture se trouve liée toujours et partout, nous étions tombés d'accord, je crois, vous et moi, que la seule réalité sociologique concomitante de l'écriture, c'était l'apparition dans les sociétés à écriture de fissions, de clivages, introduisant dans leur sein des castes ou des classes. L'écriture nous étant apparue à ses débuts, essentiellement comme un moyen d'asservissement d'hommes par rapport à d'autres hommes, comme un moyen de commander aux hommes et de s'approprier les choses. Or, ça ne me semble pas être fortuit que cette transformation de la production artistique à laquelle je faisais allusion il y a un instant est accompagnée des sociétés qui sont d'une part des sociétés à écriture. Je ne dis pas que c'était un phénomène nouveau pour la Renaissance, mais ce qui était nouveau au moins, c'était l'invention de l'imprimerie, c'est-à-dire une diffusion, un changement d'ordre de grandeur, si je puis dire, de la place de l'écriture dans la société. Et en tout cas, deux sociétés, que ce soit la Grèce athénienne ou que ce soit l'Italie florentine, où nous voyons apparaître avec une acuité particulière ces distinctions de caste ou de classe ou de fortune, enfin dans les deux cas, il s'agit de sociétés où l'art devient le fait d'une petite minorité qui voit dans l'art un instrument ou un moyen de jouissance personnelle, intime, beaucoup plus tôt que ce qu'il a été dans les sociétés que nous appelons primitives et ce qu'il est toujours dans certaines d'entre elles, c'est-à-dire un grand système de communication qui fonctionne à l'échelle même du groupe.
Alors ce qui est très net, c'est que dans nos sociétés, Tous les artistes sont unanimes à déplorer l'absence de diffusion dans les classes dites populaires de leurs œuvres. Et en même temps, tout cela reste sur le plan du regret vaguement exprimé.
Mais ça ne peut que rester sur le plan du regret vaguement exprimé, parce qu'il ne dépend évidemment pas de la volonté de ces artistes, ni même de la volonté de quelques-uns, qu'une situation historique qui a mis des siècles à se constituer change brusquement. N'est-ce pas? Tout ce que nous pouvons, c'est constater une modification et non pas du tout penser qu'il est de notre pouvoir de la transformer.
Mais alors, où faut-il trouver les causes de la rupture? Dans le groupe ou dans un changement de fonction de l'art lié à d'autres phénomènes?
Je pense que nous ne pouvons le trouver que dans une évolution générale de la civilisation, enfin d'ailleurs qui ne s'est pas faite d'un seul coup, puisque nous apercevons des périodes récurrentes dans cette affaire. Enfin, l'art, me semble-t-il, a perdu le contact avec sa fonction significative dans la statuaire grecque. Il le repère dans la peinture italienne de la Renaissance, mais on pourrait dire jusqu'à un certain point que ce sont là des choses qui déjà s'esquissent dans d'autres sociétés, probablement déjà dans la statuaire égyptienne jusqu'à un certain point, à un beaucoup moindre degré, me semble-t-il, qu'en Grèce, mais jusqu'à un certain point, également dans la statuaire assyro-babylonienne à un certain moment, et me semble-t-il, aussi dans une société que nous avons tendance à ranger parmi celles qu'étudient les ethnologues, mais qui a beaucoup de points communs du point de vue de la place de l'art dans la société, c'est le Mexique précolombien. Or, ça ne me semble pas du tout un hasard que le Mexique précolombien me vienne sur la langue à ce moment-là, et pensant à des nuances de la production esthétique, alors que ça a été précisément aussi une société à écriture. Il me semble que l'écriture a joué un rôle très profond dans l'évolution de l'art vers une forme très représentative. C'est que l'écriture a tout de même appris aux hommes qu'il y avait une possibilité, non pas seulement par le moyen de signes, de signifier le monde extérieur, mais de l'appréhender, d'en prendre possession. Je n'aurais pas du tout la naïveté de prétendre qu'une statue grecque de Praxitèle soit ou même tende au facsimilé du corps humain. Ce serait évidemment un propos monstrueux. Et bien certain que une statue grecque classique est en un sens aussi éloignée de l'objet qu'une statue africaine, que dans tous les cas il y a tout de même langage, que dans tous les cas il y a tout de même signe. Ça n'est donc pas là que je verrai la grande différence. Mais c'est, me semble-t-il, dans une différence d'attitude. Il me semble que dans la statuaire grecque ou dans la peinture italienne de la Renaissance, à partir du Quattrocento en tout cas, il y a vis-à-vis du modèle, non pas seulement ce souci de signification, cette attitude purement intellectuelle, qui me semble si frappante dans l'art des peuples que nous appelons primitifs, j'ai l'air de dire, proférer là un paradoxe, mais qu'il y a presque dans ces arts une attitude magique et qui ne se trouve pas chez les archaïques, mais bien chez les civilisés. C'est ce que j'appellerais la possessivité vis-à-vis de l'objet, le moyen de s'emparer d'une richesse ou d'une beauté extérieure. C'est dans cette relation personnelle, cette possibilité de capturer l'objet à son profit, au profit du possesseur ou même au profit du spectateur, que me semble être la grande différence, la grande innovation des arts qui nous semblent les plus proches de ceux de notre civilisation.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Entretien avec Claude Lévi-Strauss, professeur au Collège de France, une émission de Georges Charbonnier.